Ça va bien? Ça va bien? Vous êtes en forme? Est-ce qu'il y a quelques enfants avec nous? Hey boy! Est-ce qu'il y a quelques enfants avec nous? Ah, ça j'aime mieux ça. C'est quoi le thème de notre lancement cette année? Vous savez c'est quoi? Le grand mystère. C'est le grand mystère, le thème de notre lancement cette année. On aurait pu appeler ça aussi le secret le mieux gardé de l'univers. Est-ce que vous savez, là c'est une question pour les enfants, est-ce que vous savez quel est le secret le mieux gardé de l'univers? Je vous donne un indice. Vous êtes dans une église. Non? OK, les adultes, c'est quoi le secret le mieux gardé de l'univers? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus le secret le mieux gardé de l'univers. Voyez-vous, ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est le secret le mieux gardé de l'univers et pourtant c'est la clé de la liberté. Puis c'est drôle parce que quand tu es dans une église ou si tu as été élevé dans une église, moi j'ai commencé à fréquenter cette église quand j'avais 7 ans, bien des fois tu es un petit peu comme quelqu'un qui, tu sais, qui porte des lunettes puis qui cherche ses lunettes, puis là, commence à s'énerver, commence à chercher ses lunettes partout. Puis là, quelqu'un le regarde, puis il dit, « C'est parce que t'es là sur le nez, tu sais. » C'est arrivé à tout le monde qui a des lunettes, t'es là, puis surtout avec des petites lunettes comme ça, hein, presque invisibles, là, tu dis, « Oh, mes lunettes! » Tu commences à t'énerver pour réaliser que tu les avais sur le nez. Déjà, si j'avais, tu sais, ça, c'est mes lunettes de rechange que je vais mettre. Déjà, si j'avais celle-là, hein, déjà, je les remarquerais. Mais même si t'as des lunettes qui sont plus apparentes, bien, avec le temps, hein, souvent, tu t'en rends même plus compte, tu ne vois plus tes propres lunettes, ils disparaissent à tes yeux. Bien, si comme moi, tu as commencé à fréquenter une église très jeune, ça se peut que le secret, le mieux gardé de l'univers, que dans le fond tu connais peut-être depuis ton enfance, tu ne le vois plus. Tu ne vois plus Jésus alors qu'il est là devant tes yeux et que tu devrais pouvoir le connaître. Ce matin, j'espère vous convaincre les adultes et les enfants, que la solution se trouve juste devant vos yeux dans la personne de Jésus. Alors, premièrement, toutes les vies humaines sont en fait un escape room. Qui a déjà joué dans un escape room? Je ne sais même pas comment ça se dit en français. Qui a déjà essayé ça? Vous savez, vous êtes comme dans une pièce, puis il y a des indices un peu partout, puis il faut que tu trouves comment tu fais pour sortir de cette pièce-là. Tu dois résoudre une énigme. Tu n'es pas vraiment enfermé, d'accord? Tu peux ouvrir la porte puis sortir, on ne veut pas qu'il y ait d'attaque de panique, rien. Mais tu as des indices qui sont donnés là, puis tu dois résoudre une énigme. Puis tu fais ça en équipe, tu as un temps donné, on appelle ça un escape room. Puis en fait, toutes nos vies ressemblent un peu à ça. Parce que voyez-vous, lorsque Dieu a créé l'être humain au départ, bien, il n'y avait pas vraiment de problème. Si on va là, au départ, loin, 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 pas ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, non. On va remonter un petit peu plus loin, on va aller jusqu'à Adam et Ève. Au départ, Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin, et c'est tout sauf un escape room, c'est-à-dire que tout va bien. Tout est là, tout est parfait, il n'y a même pas de mystère. Je veux dire, si tu as une question, tu n'as pas besoin d'aller sur ChatGPT. Tout ce que tu fais, c'est Dieu, on se voit tantôt à 3 heures, on jase ensemble, parce que Dieu allait parler avec Adam et Ève régulièrement, quotidiennement. Donc, il pouvait poser toutes les questions du monde comme il voulait. Ce qu'on lit dans l'Écriture, dans Genèse 2, verset 16-17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, de tous les arbres qu'il y a ici dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, Adam et Ève sont dans le jardin, ils ont tout pour eux, le bonheur est là, les relations sont harmonieuses, ils ne se posent pas la question « Comment est-ce qu'on fait pour avoir des amis puis pas se chicaner? » Tu sais, c'est comme une des premières questions que tu te poses quand tu commences à réfléchir. « Comment tu fais pour partager puis en même temps garder tes jouets pour toi? » Il n'y avait pas ces conflits-là. Malheureusement, Adam et Ève ont péché. Ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté celui qui pouvait résoudre toutes leurs questions. Et Adam et Ève ont décidé de manger de cet arbre-là, de ce fruit-là qui était interdit. Et la Bible nous dit que Dieu les avait avertis. Il avait dit, le jour où vous allez faire ça, vous allez mourir. Il y a quelque chose en vous qui va mourir dès ce moment-là. Et en fait, Dieu va plus loin, Dieu va jusqu'à les chasser du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, toute l'humanité, tous les êtres humains on est entré chacun dans notre escape room, où on est à quelque part dans une pièce, on a un paquet de questions, il y a toutes sortes d'indices, mais la vie est une énigme constante qu'on essaie de résoudre. On essaie de savoir, mais c'est quoi la réponse à mes questions? Comment est-ce que je fais pour sortir d'ici? Qu'est-ce que je dois comprendre? Puis on a un paquet de questions qui viennent dans notre esprit, tout simplement parce qu'on a rejeté Dieu. Et ce que la Bible nous dit, c'est que tous les êtres humains sont pécheurs. Quand tes parents, tu le découvres assez vite chez tes enfants. En fait, tes enfants t'aident à te rappeler que toi aussi, tu es pécheur. Les enfants ont un don extraordinaire, c'est nous rappeler qu'on est pécheur. Je ne sais pas comment ils font, mais assez rapidement, tu te rappelles de ça. Au début, ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils sont géniaux, mais tu sais, même si tu es beau et tu es fin, tes parents, grâce à toi, se rappellent qu'ils sont imparfaits. Régulièrement, tu leur rappelles ça. Sans le vouloir, c'est un don que tu as de leur tomber ses nerfs. Puis là, ils se rappellent, ils disent « Ah oui, je suis pécheur. » Puis là, eux autres aussi sont dans leur escape room parce qu'ils disent « Comment on fait pour élever des enfants? Comment on fait pour réussir ça? » Tout allait bien, je commençais à aimer mon épouse, je commençais à aimer mon mari, on commençait à se comprendre, on a des enfants, on ne comprend plus rien. Attends, ça va s'empirer quand ils deviennent ados. Ça finit plus cette affaire-là. Tous les êtres humains sur la terre, parce qu'on est pécheurs, on a rejeté Dieu, on est tous dans un escape room où on cherche des réponses, un paquet d'indices pour comprendre c'est quoi la solution. Et je vous donne quelques exemples. Que tous les êtres humains se posent à un moment ou à un autre de leur vie. Qui suis-je? Et ça, c'est troublant. Là. Quand tu arrives à... On vit tout ça à différents âges, là, mais j'ai déjà partagé. Je me souviens pas, je devais avoir peut-être 9-10 ans, tu sais. Je regardais le plafond, grosse question philosophique. Est-ce que vraiment j'existe? Quand ton cerveau commence à faire de l'abstraction, là, ça commence à faire peur, cette affaire-là. C'est drôle, je ne m'étais jamais posé cette question-là. La seule question, c'était comment je fais pour gagner? Qu'est-ce que je fais pour avoir la plus grosse part du gâteau? Ça, c'est les questions que je me posais. Puis là, tout d'un coup, tu regardes le plafond dans ta chambre, tu dis, est-ce que j'existe vraiment ou je suis le fruit de mon imagination? Qui suis-je? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Est-ce que la vie s'arrête après la mort? Et là, je vais en donner les grosses questions. Pourquoi est-ce que je fais le mal quand j'aimerais faire le bien? Ça, on est confronté à ça assez jeune, hein? Tu fais du mal, puis ben, des fois, tu es comme content d'avoir fait du mal à ton frère ou à ta sœur, puis là, à un moment donné, ta conscience a dit, finalement, c'était pas bien. Puis là, tu dis, OK, je ferai plus ça. Mais tu réalises que tu le fais encore. Pourquoi je fais le mal quand je voudrais faire le bien? Comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Hey, ça, c'est toute une énigme. On passe la vie à essayer de résoudre ça. Tellement de gens sur la terre passent leur vie à essayer de résoudre cette question. Comment changer pour devenir une meilleure personne? S'il y a un Dieu, lequel? Quand même une bonne question. S'il y a un Dieu, lequel? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas plusieurs? Il y a plusieurs êtres humains. Pourquoi on n'aurait pas chacun notre Dieu? En avançant dans la vie, tu en viens à réaliser que c'est même souvent toi qui te place dans des situations insolvables, difficiles, compliquées. En québécois, tu te mets dans le trouble toi-même. Je ne sais pas combien de fois, avant que je devienne chrétien, moi j'avais été élevé dans une église. Fait que je savais, quand ça va mal, prie Jésus. Quand ça va vraiment mal, prie Jésus. Je ne sais pas combien de fois je me suis mis moi-même dans le trouble. Moi, je suis devenu chrétien à 18 ans, à la fin de mes 18 ans. Je ne sais pas combien de fois, l'espèce de cri intérieur, j'ai dit, « Seigneur, sors-moi de là, je sais que j'ai été vraiment coco. Sors-moi de là, Seigneur. » Je ne sais pas combien de fois il l'a fait, dans sa grâce, dans sa bonté. Mais voyez-vous, tous les êtres humains, on est pris dans une espèce de « escape room » parce qu'on est pécheurs, on a rejeté Dieu. Puis on a plein de questions importantes. La vie est comme un grand, grand quiz. Puis on dit, comment on fait pour trouver les réponses à ces questions-là? Où est-ce qu'on va les trouver? Ça m'amène à mon deuxième point que je veux voir avec vous ce matin. L'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, c'est lui qui a écrit, il me semble, et qui dit, « Dieu est très, très, très négligent et il laisse traîner des indices de son existence un peu partout. » J'ai toujours aimé ça, cette image-là. Comme si Dieu, tu sais, se ramassait pas, puis il laisse des indices du fait que c'est lui qui a créé l'univers. Hein? Tu regardes le soleil, puis tu dis, mais que c'est beau. C'est pas simplement utile, c'est magnifique, c'est beau. Tu prends un enfant dans tes bras, puis tu dis, mes amis, quelle créature extraordinaire. Dieu est très négligent, laisse traîner partout toutes sortes d'indices de son existence. Et quand tu es dans un escape room, ben c'est ça que tu fais, tu cherches des indices. Une fois, ils sont là devant tes yeux, tu ne les remarques pas, tu commences à fouiller. Même, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Puis on est là, puis on cherche des réponses. Il y a des indices, ils sont là, ils sont à quelque part. Tu dis, ah, ça c'est peut-être un indice, ça c'est peut-être un autre indice. La Bible nous dit que Dieu a semé des indices de son existence, de la solution à ce grand quiz-là de ta vie, un peu partout dans la nature, un peu partout dans l'univers. On lit dans Romains 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que quand tu considères tout ce qu'il y a autour de toi dans l'univers, que ce soit la nature, que ce soit les gens, que ce soit ce que les gens ont créé, ce sont tous des indices qu'il y a un créateur derrière ça. Quand tu vas visiter une galerie d'art, puis tu vois une toile, puis tu te dis, mais que c'est magnifique, mais que c'est beau. Pas seulement une fleur, mais aussi la toile, la peinture qui a été faite par un artiste qui représente la fleur. Puis tu vois à travers ça le processus créatif de ce peintre-là, puis tu te dis, mais c'est tellement beau. Mais en même temps, c'est en train de parler de quelque chose d'existant qui est encore plus magnifique. Qui est peut-être la toile d'un autre artiste, le créateur. Et donc, Paul dit, tous les êtres humains ont à l'intérieur d'eux ce sentiment, s'ils veulent bien se taire un instant et contempler l'univers, il y a quelque chose en eux qui leur dit, il y a quelqu'un, il y a quelque chose de plus grand que moi. Et c'est là partout dans l'univers. Dans Genèse 1, 26, je retourne au début de l'histoire de l'humanité. Tantôt, on était avec le jardin, puis la chute, tout ça, mais même avant ça, dans Genèse 1, 26, on lit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Même dans les relations humaines, même quand tu regardes à l'intérieur de ton cœur, quand tu regardes ce que c'est l'être humain, il y a plein d'indices qu'il y a un créateur dans ça. Je vous donne un exemple. OK, les enfants, nous, on a un chien qui est gros comme ça, OK? Je vous dis, quand il est obèse, il pèse à peu près 11 livres, je pense. Mon épouse me corrigera. Je vous dis, vraiment obèse. 12 livres, ça va pas bien. Tout petit sushi. Et vous savez quoi? Elle s'appelle Sushi. Sushi, si elle trouve, tu sais, si j'échappe quelque chose pendant que je suis en train de faire de la nourriture, moi, ça m'agace tellement, je fais juste aller dans la cuisine, elle vient s'installer là, un sphinx, un gros sphinx d'un pied de long, puis là, elle me regarde faire ma popote. Si j'ai le malheur d'échapper quelque chose, si je ne l'ai pas averti à l'avance, vouf, elle s'en va le chercher. Puis vous savez quoi? Sushi ne me demande jamais pardon pour avoir pris la nourriture. Jamais. Ouais, si je lève la voix, ça fait des petits... Mais je veux dire, ça prend 3 secondes, elle vient s'installer là, puis elle attend le prochain truc qui tombe. Il n'y a pas comme un remords de conscience. Elle se dit pas, moralement, c'est discutable ce que je viens de faire. Je veux dire, après tout, ils prennent soin de moi, ils me nourrissent, ils m'aiment, ils me caressent. Je me mets les 4 fers en l'air, ils viennent me flatter la bedaine. C'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. Sushi fait jamais ça. Mais toi et moi, il nous arrive de temps en temps, pas tout le temps. Des fois, on est vraiment pareil comme Sushi. Sérieux. Merci Seigneur, je me suis pas fait pogner. Soyons honnêtes. Mais des fois, on a un remords de conscience. Puis là, on dit, c'est vraiment cheap ce que j'ai fait. C'est pas bien ce que j'ai fait. Et si vous dites, non, mais c'est pas tous les êtres humains qui sont comme ça, ben moi, je vais vous donner un petit exercice à faire, OK? Tu peux avoir n'importe quel âge, tu peux faire ça à 9 ans, tu peux faire ça à 79 ans, à 89 ans, peu importe. Cette semaine, quand tu vas être pas correct avec quelqu'un, au travail, à l'école, n'importe où, l'école a recommencé, va voir ton ami à l'école. Tu sais, toi, tu vas savoir que tu n'as été pas correct, puis fais quelque chose. Va le voir, puis dis, écoute, faut que je te parle, je veux te demander pardon. Dis pas, hey, j'ai été poche tantôt. Dis pas, va pas juste le voir en étant bien, bien gentil avec pour qu'il dise « On est encore des amis, là, tu sais. » Non, non, non. Je vous dis, c'est une baguette magique. Sors ça de ta poche de l'arrière et dis « Je veux te demander pardon. » Essayez ça avec un collègue de travail cette semaine. « Écoute, j'aimerais te demander pardon. » Il va y avoir comme un malaise qui va s'installer. Non, c'est correct. Non, 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 c'est pas correct. Je veux te demander pardon. C'est pas correct. Si je viens te demander pardon, c'est parce que c'est pas correct. Je suis vraiment désolé. Je t'ai manqué de respect. Le malaise total. Mais je vous dis, là, c'est comme un coup de baguette magique, cette affaire-là. Parce que tous les êtres humains, on a une conscience. Et lorsqu'on s'en va dans le langage de la conscience, puis qu'on demande pardon à quelqu'un, ça éveille quelque chose chez l'autre. Bien, c'est un des indices que Dieu a semé comme ça dans l'univers, qu'il y a un Dieu qui existe. Et que oui, il y a des sushis sur la terre, pas des sushis, là, des sushis, cool. Il y a des petits chiens, des petits oiseaux, puis ils sont super beaux, puis ils me parlent de Dieu. Mais l'être humain ressemble encore plus à Dieu parce que lui seul a été créé à l'image de Dieu. Je le dis souvent un peu à la blague, mais c'est vrai, je veux dire, les animaux ne se posent pas des grandes questions écologiques. Je vous le dis, moi j'aime la nature, je m'en vais bientôt faire la récolte de l'orignal. On travaille sur ça. Les animaux, tu sais, quand un castor décide qu'il fait mourir une rivière, il ne se pose pas de questions. Il dit, une rivière, beau spot pour ma maison. Mais nous, on est là, puis on se dit, je pense qu'on est en train de détruire des rivières. Vous allez me dire, ben, notre conscience n'est pas très aiguisée. Là. On se dit plus souvent, j'espère que je ne vais pas me faire pogner. Vous avez raison, mais la conscience est là quand même. Le simple fait qu'on est en train de se troubler, à dire, attends un peu, il y a des espèces qui disparaissent. Je veux dire, le loup en forêt, là, s'il y a une espèce qui disparaît, il va en trouver une autre à manger. C'est pas compliqué. Mais nous, on est là, puis on se dit, attends un peu, là. Il y a comme, tu sais, Dieu a tout créé ça, puis ça serait bon de garder ça. Alors, ce que je vous dis ce matin, c'est que Dieu sème des indices partout qu'il existe. Ils sont là, sont disponibles. Tu es dans ton escape room, puis il y a plein d'indices qui disent ta solution à ton problème, mais ça passe peut-être par Dieu. Mais souvent, c'est juste là devant nos yeux, comme mes lunettes que je pourrais chercher, puis dire, « Non, elles sont où mes lunettes? » Elles sont sur ton nez, bonhomme. Mais vous savez quoi? Les pires, c'est ceux qui sont nés dans une église, comme moi. Ça nous prend du temps, parce qu'on entend tellement parler de Jésus. Qu'à un moment donné, Jésus, c'est comme, juste comme un bruit de fond. Jésus, Jésus, je sais, Jésus, c'est correct, Jésus, ouais, puis Jésus. Bien, je disais, moi, j'ai commencé à fréquenter l'église quand j'avais 7 ans. On m'a raconté toutes les histoires de Jésus. J'avais ma Bible en bande dessinée, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Je connais toutes mes histoires. Bien, j'ai compris les indices que Dieu me donnait juste à 18 ans. Mais avant ça, là, j'étais pris à me poser des grandes questions, puis je disais, mais c'est quoi la solution? T'es pas obligé de faire comme moi. Tu peux ouvrir tes yeux avant 18 ans. Puis si tu as 29 ans ou tu as 46 ans, tu peux encore ouvrir tes yeux. Parce que Dieu a donné plein d'indices. Qu'il est là, qu'il y a un créateur et qu'il y a un créateur qui veut se faire connaître à toi. Et ça m'amène à mon dernier point, au plus grand mystère de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ. Voyez-vous ce qu'on lit dans Romains 16, versets 25 à 27, « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, selon ma bonne nouvelle et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Jésus était un mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu. Seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Jésus est la clé pour sortir de ton escape room. Dieu a donné plein d'indices qu'il existe. Dieu a donné plein d'indices qu'il fait partie de la solution, quels que soient tes problèmes. Mais Jésus est cette clé-là. Puis, si tu es comme moi, tu as été élevé dans l'Église, tu es jeune, mais ça se peut que Jésus soit juste là devant tes yeux comme ma paire de lunettes. Puis tu l'entends tellement souvent hein, que tu ne vois pas que c'est la solution. Parce qu'en fait, Jésus est cette solution. Quand tu fais un escape room, tu n'es pas tout seul, tu es avec une équipe. Ce qui est extraordinaire avec Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu le Fils qui était dans le ciel et qui est devenu un homme. Il s'est joint à nous, il est venu jouer dans notre équipe avec nous pour que vraiment on puisse saisir qui il est, que vraiment on puisse comprendre ce qu'il faisait. Et non seulement ça, mais il est venu mourir sur la croix pour tes péchés et les miens, afin que tes péchés puissent être pardonnés. Je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de problèmes qu'on crée dans notre vie parce qu'on se met nous-mêmes dans le trouble. On est pécheurs. On est pécheurs. On repousse Dieu, puis on crée toutes sortes de situations impossibles où après tu dis, comment je vais faire pour me sortir de là? Puis Jésus est là, puis il dit, viens à moi. Viens à moi, je vais te montrer le chemin pour sortir d'ici. Et là, je vais te dire quelque chose, peut-être pour les adultes. Jésus fait toujours partie de la solution. Il fait toujours partie de la solution, quel que soit ton problème. Certains d'entre vous vous dites, attends un peu, là, j'ai une panne de voiture, je veux dire, Jésus ne va pas venir imposer les mains à mon moteur, boum, ça va repartir. Jésus fait toujours partie de la solution. Commence par te tourner vers lui. Tu fais une dépression, tu as des problèmes de santé, tu viens d'avoir de très mauvaises nouvelles, intègre-le toujours dans ta solution. Les enfants, je vous raconte, il y a des années, j'essayais de me rappeler tout à l'heure, mon fils avait quel âge? D'après moi, il devait avoir à peu près 9 ans. On a fait un voyage, on est allé en Floride. Vraiment un voyage de super béni. On est allé à Disneyland. Puis, il y avait beaucoup de monde. Puis moi, je suis très, très papa poule. On s'était vraiment tout organisé pour ne pas perdre les enfants pendant qu'on était en train de marcher dans la foule. Mais quand tu dis une foule, il y a une foule. C'est immense, c'est grand. Puis tu ne veux pas perdre ton enfant là-dedans. On avait des walkie-talkies. On était tout équipés pour ne pas perdre les enfants. En plus de ça, bien, tout le monde parle en anglais. Mon fils n'était pas bilingue à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait si on le perd? Puis à un certain moment donné, dans la foule, je me tourne vers mon épouse puis je dis, « Où est Bastien? » On ne trouvait pas Bastien. On s'est mis à paniquer, on a les walkie-talkies, OK, on s'éparpille, puis on commence à chercher Bastien. Et Dieu merci, quelques minutes plus tard, on voit la petite tête blonde qui s'en venait, calmement, qui est en train de chercher ses parents, qui est en train de marcher. Puis quand on est allé voir Bastien, on lui a dit, ça va, oui, qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as vu que tu étais perdu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a dit, Seigneur, aide-moi à trouver mes parents. Tournez-vous toujours vers Jésus, quelle que soit la situation. Commencez par vous tourner vers lui. Après, ça se peut qu'il envoie plein de gens pour vous aider dans une situation très concrète. Sébastien ne nous avait pas trouvés, il savait. Tu vas voir les messieurs en uniforme, tu vas voir les madames en uniforme, puis tu poses des questions. Ils vont t'aider à nous trouver. Mais la première chose qu'il avait fait, c'est de prier Jésus. Aide-moi à trouver mes parents. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Quand tu joues dans un escape room, il y a des indices partout. Ce que Dieu te dit à toi, si tu sais que Jésus, c'est la clé pour sortir du escape room de ta vie. Si tu as découvert ça, ta mission maintenant, c'est, tu sais quoi? C'est de semer des indices un peu partout à ton tour. Regardez bien ça. Jésus dit ceci. Dans Matthieu 28, 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus dit à ses disciples, « Allez partout sur la terre, parlez de moi. Je suis la clé pour que tout le monde puisse sortir de son escape room. Je suis la solution à ces grandes questions, ces grands quiz de la vie pour tous les êtres humains sur la terre. » Ailleurs, Jésus dit ceci dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pierre dit ceci dans 1 Pierre 2, 12, « Ayez au milieu des païens, des non-chrétiens, une bonne conduite afin que l'homme même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Toi et moi, si on sait que Jésus, c'est la clé pour sortir de notre escape room, notre mission maintenant, c'est de semer des indices. C'est littéralement ça notre job. Quelle sorte d'indices on peut semer? Mais tantôt, je vous ai donné un exemple. Prochaine fois que vous manquez envers quelqu'un, chrétien ou non, semez un indice. Allez lui demander pardon. Je vous dis, vous allez voir des points d'interrogation dans ses yeux, il va dire « OK, c'est correct, là, c'est beau. » S'il ne veut pas aller plus loin dans la conversation, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Tu as semé un indice. Si tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, va l'aider. Il y a une situation à la maison où tu vois que quelqu'un est fatigué, va juste le voir et lui dire « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? » Et tu es en train de semer des indices. Parce qu'éventuellement, cette personne-là va te dire « Explique-moi pourquoi tu agis ainsi. » Ou simplement, un des indices que je préfère semer, c'est celui-là. « Ça te dérangerait-tu que je prie pour toi? Je sais que tu as un fardeau. » J'aimerais ça prier pour ça. J'ai fait ça avec une amie il y a quelques mois. Je lui ai dit « Écoute, je prie pour toi, je sais que c'est pas facile, la situation, elle a une entreprise, tout ça, puis c'est difficile. » Puis j'ai dit « Écoute, je prie pour toi. » Puis il y a quelqu'un qui est décédé là-bas. Et là, elle m'a téléphoné il y a quelques semaines pour me dire, parce qu'elle sait que je prie, j'avais semé mon indice. Elle m'a dit « Est-ce que tu viendrais faire un service funéraire? » Juste pour souligner, honorer la mémoire de cette personne-là, on ne savait pas vers qui se tourner. Puis il me demande à moi, parce que j'ai semé un indice. Je ne sais pas si tu as trouvé des solutions à ton escape room, mais je te dis, tu es dans un escape room. Et il y a plein de questions qui vont venir. Plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas avoir des questions. Il va y avoir des quiz difficiles qui vont se présenter. Tu vas dire, mais c'est quoi la solution? Et peut-être juste là devant tes yeux, si tu entends l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ depuis ton enfance, elle est peut-être juste là devant tes yeux. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu as toute une équipe ici pour t'aider à trouver la solution. Parce que c'est ça l'Église. C'est ça le lancement des Explos. C'est toute l'Église qui fait équipe ensemble pour aider nos enfants à trouver la solution tôt dans leur vie ou plus tard. Ou plus tard encore. Mais on est toute une équipe ensemble. Et ça se peut que tu vives des choses, même une fois que tu es chrétien, tu vas en vivre plein de quiz, plein de difficultés, où tu te dis, mais c'est quoi la solution? Je ne la trouve pas. Il y a toute une équipe avec toi. On est tous ensemble dans ça. Va voir un frère, va voir une sœur dans l'église, va lui dire, écoute, je suis pris avec ça, je le sais, tu vas me dire, c'est Jésus, mais je ne trouve pas comment il rentre dans le puzzle, je ne sais pas comment le rentrer dans le casse-tête, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, Jésus. Va voir un frère, va voir une sœur. On est tous ensemble. Puis on essaie tous de trouver la solution. Et je vous dis, la clé, le secret le mieux gardé, c'est Jésus-Christ. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin avec simplicité pour souligner que tu es le grand mystère. Tu es le secret le mieux gardé de l'univers. L'Occident, le Canada entend parler de toi depuis maintenant des siècles, Seigneur, tellement que tu es comme un bruit de fond, comme une paire de lunettes qu'on a oubliées. On ne te voit plus, pourtant tu es là sur notre nez. Et c'est encore plus vrai pour nous qui sommes dans l'Église, qui venons à l'Église depuis des années. Et on ne réalise pas que tu es cette solution, Jésus. On ne te voit plus comme la paire de lunettes sur mon nez. Je te prie ce matin, à travers nos chants, notre louange, à travers cette célébration, Seigneur, viens et que nous puissions te voir. Qu'on puisse avoir le réflexe cette semaine de se tourner vers toi, comme mon fils qui était perdu dans la foule, qui n'avait pas d'autre remède que de dire « Aide-moi, Seigneur, je suis perdu, j'ai besoin de trouver mes parents, c'est trop grand pour moi, je ne sais pas comment me sortir de cet escape room. » Et Seigneur, donne-nous de vivre ça en équipe, avec nos enfants, avec les parents, avec les explos, avec les ateliers, avec les frères et sœurs. Parce qu'on est une communauté, Seigneur, qui avons toutes sortes de mystères, de quiz comme ça dans nos vies. Et on a besoin de comprendre comment tu es cette solution, Jésus, pour nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.